13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, Dessus de Table, c'est l'émission qui met le pied dans le plat et qui a toujours un rouleau à pâtisserie avec, avec elle. Voilà, je me tourne vers Manuel Mariani. Bonjour et bienvenue dans
Bonjour Philippe.
Comment ça va, Manu?
Ouais, ça va bien et toi?
Ben, ça va bien. Vous me tutoyez, Manu?
Oui, c'est vrai.
Je trouve que vous avez des familiarités qui me gênent un peu à l'antenne. Je voudrais pas. On n'a pas fait de pâtisserie ensemble, Manu.
C'est vrai. J'avais pris l'habitude pendant le Ramadan, c'est pour ça. Bon, comment allez-vous?
Vous me tutoyez pendant le Ramadan? Alors, il y a des choses qu'il va falloir revoir, Manu.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, alors on est en direct, et ce qui prouve que quand on est en direct, eh bien, l'invité peut être coincé dans les embouteillages. C'était le cas de mon invité tout à l'heure aussi, puisque ça roulait très très mal au niveau de la porte de Bagnolet. Il y a eu un accident.
Accident sur le périphérique, il y en a eu un autre quand je suis arrivé moi. Donc
ce matin, ce qui fait que ça bouchonne et qu'on attend notre invité. Alors, un invité exceptionnel, Manu, hein, aujourd'hui.
Absolument, nous allons recevoir Yazid Hichem Rahen, hein, qui est, pour ceux qui l'ignorent, alors beaucoup plus le connaissent sous l'incarnation de Just Riyad, hein, dans le film À la belle étoile, qui a été produit par Jamel Debbouze, et qui retrace justement l'histoire de Yazid Hichem Rahen, qui est champion du monde de pâtisserie glacée, et qui est quelqu'un qui a eu un parcours hors norme, qui a pas très bien démarré dans la vie, hein, qui a eu quelques difficultés, et qui malgré ça s'en est sorti à la force du poignet, comme on dit, à la force du rouleau à pâtisserie, pour reprendre votre expression, Philippe.
Moi, je dis plus le rouleau à pâtisserie.
C'est ça.
Il y a des expressions que je n'emploie pas, Manu.
Mais c'est ça.
Alors on va le faire venir. Il va arriver. Il raconte son histoire d'ailleurs dans un livre. Hein.
Oui, tout à fait. Donc c'est un livre qu'il a sorti. Alors conjointement au. Bon, parce que effectivement, bon, dans un film d'une heure et demie, c'est difficile de retracer une vie entière, surtout quand elle a eu beaucoup de rebondissements. Donc effectivement, il y a certains aspects du livre qui n'apparaissaient pas dans le film. Je vais y arriver. Et donc le livre vient en complément. Enfin, j'ai envie de dire, les deux vont ensemble. Donc le film est sorti en février. Là, le livre est sorti il y a deux jours. Ceux qui sont allés voir le film, c'est pas mal qu'ils relisent, qu'ils lisent le livre et qu'ils retournent voir le film. Et ça donne une lecture totalement différente. Hein. Voilà. Ce que je vous propose, Philippe.
Oui, alors dites-moi, proposez-moi, Manu.
Dites-moi.
Parce que là on est en totale improvisation, et c'est ça que j'aime dans ce métier aussi.
C'est ça, mais on aime ça en plus.
Parce que je sais que si j'appuie sur un bouton, Manu, vous allez tenir jusqu'à 13h.
Est-ce que vous
voulez... Je n'aurais même pas besoin d'intervenir, c'est ça que j'aime.
Je peux même vous chanter une chanson.
Alors qu'est-ce que vous voulez me proposer, dites-moi.
Alors, Non mais je voulais qu'on fasse un petit... qu'on parle un petit peu du Ramadan, qu'on fasse un petit rétrospect.
C'est passé le Ramadan.
Non mais c'est passé, mais
parlez-moi de Shawwal.
Est-ce que vous avez passé un bon Ramadan, Philippe?
Ah, j'ai passé un très bon Ramadan, Manu.
Non, parce que je voulais quand même souligner, vous féliciter, Philippe, pour vos 29 émissions en direct, Ramadan Inco avec l'ADEN en direct, hein, tous les jours.
Ben c'est gentil,
c'était fort.
Merci. C'était fort. Et vous féliciter pour vos 29 émissions du tour du monde, dessus de table.
Non, de chacun son tour.
De chacun son tour, Manu, voilà, en direct. Mais attends, c'est pas des félicitations. On aime beaucoup le direct pendant ce mois-là, d'ailleurs. Et ben parce qu'on a aussi une équipe qui travaille derrière nous.
Ouais, Faudil aussi, d'ailleurs, qui a beaucoup d'heures.
Hein. Oui, je voudrais tout d'abord remercier Faudil
qui réalise des missions. Et du coup, quand j'ai dit Faudil aussi, il nous a fait une petite danse, un petit belly dance.
Il y a Faudil, mais d'abord, il faut remercier ceux qui doivent être remerciés. Donc, il y a Mehdi, qui nous a beaucoup aidé pendant le Ramadan. On a Samir aussi, c'est toute une équipe derrière que vous ne voyez pas. Mais ils sont présents au quotidien pour nous faire travailler.
Alors Kim qui a fait le grand écart, hein, entre le matin très tôt, la matinale, et les émissions parfois le soir jusqu'à tard.
Alors Kim, lui, je ne sais pas à quoi il tourne. Il doit avoir un secret. C'est peut-être de la drogue. Mais c'est vrai qu'il est là très tôt.
Bah moi, je connais sa drogue à Kim.
C'est quoi?
C'est le Selecto.
Ah, c'est ça. Ah,
ouais, il boit du Selecto, Kim.
On en parlera avec le docteur Alouche.
Oui.
Voilà, et puis c'est vrai.
La coke a été interdite dans le Coca-Cola, mais peut-être que dans le Selecto, c'est pas encore le cas.
Bah, ceci dit, vu le prix du Selecto, ça va. Ça...
C'est le prix du billet d'avion, Philippe.
Manu, si on pouvait éviter de se fâcher avec la Selecto International Corporation, ça m'arrangerait.
Hein, pas du tout. Justement, on dit que c'est vachement bien le Selecto.
C'est bien pour le Ramadan. On fait des sorbets à base de Selecto. et des comment on appelle ça, ces boissons à base de glace à l'intérieur, c'est magnifique.
Alors moi qui n'aime pas le sucre, hein, le Selecto, j'en bois un, ça me va pour 3 ans, mais sinon tout va bien.
Et puis on va remercier tous ceux qui ont été avec nous pendant tout ce mois de Ramadan, qui ont permis,
et puis les auditeurs,
voilà,
les auditeurs très nombreux,
les auditeurs qui sont là, et puis surtout les sponsors, parce que grâce aux sponsors, ouais, eh bien on peut être généreux et offrir des cadeaux et faire plaisir aux auditeurs. Donc ça, c'est quand même très très important, ouais, de pouvoir dire que nous, si on fait aussi ces émissions, c'est grâce aux sponsors. Sans eux, on serait pas là, hein, faut dire.
Ah oui, vous en avez offert des télés 16/9 et des aspirateurs.
J'ai calculé, on a offert quelques kilomètres de télé, et c'était pas des fils, parce que les aspirateurs étaient sans fil, mais voilà, grâce à Mo, le patron, qui a permis de faire très très plaisir à tous les auditeurs. Donc ça, il faut vraiment les remercier. Et puis tous ceux qu'on voit pas, enfin Madame Mamoun qui nous fait la soupe tous les soirs, mais ça c'est un élément central.
La chorba de Madame Mamoun, la fameuse, hein.
Ouais, exactement.
Qu'on nous envie de New York à Singapour.
Alors exactement, parce que je sais qu'à Singapour ils sont venus copier la recette. Manu, vous faites bien de le rappeler.
Oui.
Mais c'est un élément central et
indispensable.
Et l'imam Abdel Ali qui fait l'Aden en direct tous les soirs pendant le mois du Ramadan. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a presque une forme de nostalgie là. Ça fait une semaine avec Fodil, on est en train de se dire, Fodil, tu viens, on va faire les courses, parce que le samedi on a un petit rituel. On a un petit rituel du samedi, donc un petit parcours qu'on fait. On va chez Boucher Wadi récupérer
un poulet rôti.
Alors non, on a évolué cette année, on a fait du poulet, mais comme on mangeait déjà du poulet tous les jours,
oui, c'est vrai,
on a essayé de... Non, mais on a eu des belles viandes, Manu, vous qui aimez bien la viande.
Oui, oui, on a eu de l'agneau qui était magnifique, un poulet rôti exceptionnel.
Voilà, donc on a fait de la charcuterie qui était super aussi.
Oui, de la charcuterie.
Halal, mais qui était magnifique.
Oui, mais alors justement, je l'ai dit à Wadi, les charcuteries halal, souvent... elles sont faites à partir de bœuf, elles ont le goût de bœuf. Elles sont faites à partir d'agneau, elles ont le goût d'agneau. Là, la charcuterie, je sais pas comment il a fait ça, Wadi, mais on dirait du vrai halouf, moi qui en mange.
Voilà. Alors ouais. Donc on dit Boucher Wadi, mais c'est vrai que moi je dis Boucher Wadi, mais c'est l'atelier de la viande. Alors que moi je
l'atelier
dis Boucher Wadi.
Et c'est franchement impressionnant. Hein, c'est vrai qu'à part le fermier des Vosges, hein, qui a changé de nom, je crois maintenant.
Ça n'a rien à voir. Les produits sont pas comparables, parce que
le
saucisson de Wadi, il est haut de gamme déjà.
Il est haut de gamme, mais si vous voulez, Philippe, c'est réussir à base d'agneau ou de bœuf, réussir à donner le goût authentique de la charcuterie, quoi. Voilà.
Et ce soit vraiment sec.
Oui, hein, voilà.
Parce que souvent le saucisson sec, il est pas sec. Donc.
Bah oui, parce que du bœuf ou de l'agneau ne sèche pas aussi facilement que la viande de cochon, d'où la charcuterie de cochon à la base.
Faudra le tester sur le cher Youssef Hachmaoui qui est à côté de
voilà.
Lui. Voir si valide. Alors l'imam Abdel Ali Mamoun, lui, a validé.
Qui a souri quand je disais que ça avait le goût du vrai halouf.
Ouais, donc on testera sur lui peut-être, on verra.
Oui, c'est ça. Mais peut-être n'osera-t-il pas. Peut-être sera obligé de dire trois
mais
fois Bismillah.
Est-ce que vous savez, Manu, que beaucoup de musulmans qui n'ont jamais mangé de charcuterie, enfin de la charcuterie qui ressemble à la charcuterie traditionnelle toute leur vie, hésitent à en manger, même si on leur dit que c'est halal, que ça a été fait avec des ingrédients halal, parce que ça ressemble trop à la vraie.
C'est comme le Canada Dry.
Oui.
Hein, vous vous souvenez de la pub Canada
Dry?
Ah oui,
Canada Dry, oui,
ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Voilà.
Ça existe encore, ça, le Canada Dry?
Je crois, oui. Mais c'est vrai que ça. C'est, avant, on en trouvait partout. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu un peu désuet, comme le. Bon, il y a le 7-Up qui est pareil. C'est, on le voit moins, le 7-Up. Il y a des trucs comme ça qui deviennent, mais je sais pas, il y a des apéritifs aussi, des choses comme ça qui sont complètement désuets aujourd'hui. Le lillet
suranné,
le beer,
le beer,
le beer, la chartreuse, Philippe, la chartreuse.
Ah oui, la chartreuse, mais c'était pas des bénédictins qui faisaient la chartreuse?
Oui, c'est pas, je parle pas de celle de Parme, hein, évidemment.
Non, ouais, la chartreuse, ouais, c'était des bénédictins, des frères,
oui, à Saint-Pierre, voilà, à Saint-Pierre de Chartreuse, ouais, dans l'Isère.
Ouais. Qui fait ça?
Je suis allé skier là-bas, moi.
Et puis, alors, parmi les remerciements, on a quand même aussi beaucoup de chance d'être sur une antenne qui nous permet de vivre des moments comme le Ramadan en direct aussi. Il faut quand même dire qu'on a quand même des espaces où on est On est en direct, on ne pourrait pas le faire sur toutes les antennes de radio. Et on a la possibilité aussi d'avoir des gens qui nous appellent en direct, en vrai. Quand je dis en vrai, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous appelez sur une radio comme RMC ou comme RTL, vous avez un gentil standardiste qui va faire une fiche sur vous à l'entrée, qui va vous demander de vous appeler, quel est votre âge, quelle est votre profession, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous pensez... Voilà. Et qui va vous rappeler après.
Oui, alors c'est pas
nous,
le cas ici.
Nous, nous, sur Beurre FM, pendant tout le mois du Ramadan, les gens qui appellent, c'est des gens qui appellent, et, voilà, ils composent.
Et c'est des vrais gens en plus.
Alors c'est des vrais gens, et même ils sont parfois tellement surpris d'être à l'antenne, parce qu'on les prévient pas qu'ils arrivent
à l'antenne. Ils sont partis faire ailleurs, on les entend cuisiner, voilà, passer l'aspirateur.
Et donc les gens disent, ah oui, je dis, vous avez gagné. Bah oui, j'ai gagné quoi? Bah les gens, ça fait 10 minutes qu'ils sont à l'antenne, peut-être, en attente, et voilà, qu'ils savent pas. Donc c'est vrai que c'est aussi la magie du direct, du vrai direct. Voilà.
Et puis aussi remercier la direction de Beurre FM.
Ça, Manu, vous voulez une prime de Ramadan?
C'est pas du tout pour ça. Alors je vais vous expliquer.
Je sens ça.
Je vais vous expliquer.
Ça, Manu,
Philippe,
vous voulez une prime?
Non.
Je vous reconnais,
Philippe,
bien là.
Alors pas du tout. C'est que, si on me donne une prime, je la prends, mais c'est pas du tout pour
ça. M'assurer.
Parce que ce que je vais dire, je sais que vous êtes 100% d'accord avec moi. C'est aussi remercier la direction de Beurre FM, parce que pour avoir fait de la radio ailleurs, ce qui est votre cas aussi, Philippe. Sur Beurre FM, on n'a pas en permanence une personne collée aux fesses pour regarder ce qu'on fait, nous dire ce qu'on doit faire. Et enfin, je veux dire,
on a Dider quand même.
Bah oui, non, mais Dider, il est là pour nous aider, hein, pas pour. Il n'est pas collé à nos fesses pour contrôler, imposer des choses, etc. Et on a une liberté de ton et de contenu total dans nos émissions. Ce qui est rare à la radio aujourd'hui, et bien à la télé aussi.
Ce qui est rare de nos jours. Non, ce qui n'existe plus de nos jours. On est en train de parler justement avec le chef
Hachmaoui. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord
de savoir
avec
qui décidait, par exemple, sur une grande chaîne du contenu d'un journal. Oui, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de liberté. Ça, c'est sûr.
Alors que nous, on est en totale liberté. Nous batifolons en totale liberté.
D'ailleurs, là, depuis 10 minutes, nous sommes en train de batifoler en toute liberté,
oui,
attendant notre invité. Et est-ce que vous avez des nouvelles, d'ailleurs? Est-ce que vous avez réussi à le géolocaliser?
Alors, pas encore. Je pense qu'il sera là d'ici 5 minutes. Je pense qu'il sera là
Inch'Allah,
d'ici 5 minutes.
Comme on dit.
Ah ben
voilà l'invité. Donc, dessus de table dans un instant. Et on attend notre invité d'ici quelques minutes en direct.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et tout vient à point, celui qui sait attendre, Manu. Notre invité est arrivé.
Absolument, notre invité Yazid Hichem Rehane nous a enfin rejoint. Il a pu s'extirper des embouteillages. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent juste maintenant en direct à 12h19. Midi 19, 12h19, comment vous diriez, Philippe?
Ah, moi je dis comme vous.
Ouais, ouais. Allez. Ouais.
Je dis qu'on ne sait pas. Je dis qu'il est l'heure de manger.
On ne sait pas. Ouais. Hein. Allez, à 19, on va dire.
À 19.
Hein. Il est 19. Hein. Vous êtes en direct sur. Il est 20 même. Vous êtes en direct sur Beurre FM. Alors donc, Yazid Hichem Rehane nous a rejoint. Champion du monde de pâtisserie glacée, hein, je précise. Ce qui est déjà super bien. Hein. À Rimini, vous avez vu ça. Vous avez reçu ce prix.
Alors Rimini, ça doit être en Italie, non? Non,
c'est Rimini, ça. Oui, Rimini,
c'est en Italie. Oui, ouais. Ça ne s'invente pas, Rimini.
Voilà. Et Yazid Hichem Rehane, qui est une star de la pâtisserie, mais depuis peu une star du cinéma à travers Just Riyad, qui interprète, qui incarne Yazid Hichem Rehane dans le film La Belle Époque, un film produit par Jamel Debbouze. Oui. Bonjour Yazid.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est pas ça rend pas un peu schizophrène de se voir au cinéma?
Non, en fait, de réaliser, produire un film, c'est une opération qui dure environ 4 ans à 5 ans. Mmh. En tout cas, pour ma part, moi, ça a duré 5 ans parce que il y a eu la période du Covid qui nous a tous ralenti, comme tout projet entrepreneurial. Et donc, on a le temps de se préparer mentalement à tout ce qui va arriver. Donc,
oui, parce que vous avez participé à la conception du film. Hein, vous êtes impliqué dans le film, c'est pas juste.
J'étais coproducteur du film. Hein. Et puis c'est consultant sur le scénario et consultant sur l'ensemble des produits de pâtisserie du film.
Voilà, vous n'avez pas juste livré votre histoire à un scénariste et à un producteur. Non. Vous avez vraiment coproduit le film de A à Z.
Exactement. C'était pour garder le contrôle de mon histoire et puis avoir une transparence assez honnête. Que j'ai choisi cette boîte de production parce que c'est les seuls qui me proposaient de faire une copro avec eux.
Qui vous laissaient un peu de liberté. Mmh. Alors, je parlais, pendant qu'on vous attendait, hein, je parlais du fait que vous sortiez le livre peu de temps après le film. Et c'est vrai que je disais aux auditeurs, si vous avez déjà vu le film, lisez le livre et retournez voir le film. Vous allez avoir complètement une autre lecture parce que vous apportez vous apportez tout un tas de choses qui n'apparaissent pas dans le film, pas parce qu'on voulait cacher des choses, mais parce qu'en une heure et demie déjà raconter toute votre vie c'est difficile. Et puis ça permet effectivement d'avoir une autre lecture un petit peu du film.
Mmh. Bah, le livre, on va dire, c'est une transparence à 100% que je livre à l'intérieur. Je parle avec mes mots. Il y a les fautes de français dont je fais preuve depuis toujours. Et c'est vrai que dans le livre, on peut s'apercevoir de toute la difficulté du parcours, ainsi que les choses qui sont plus jolies que dans le film. Bon, les choses vont très vite et sont assez édulcorées.
Oui, parce qu'effectivement, vous avez été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, hein, puisque vous aviez... c'était très difficile avec vos parents. Hein, et donc, à partir de l'âge de 2 ans et demi, vous avez été ballotté de droite à gauche. Alors, comment justement on réussit à surmonter les difficultés d'une enfance difficile pour devenir un pâtissier de renom? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui, comme vous, peut-être n'ont pas eu une enfance facile, qui se cherchent. Et vous pourriez peut-être être inspirant justement pour eux.
Bien sûr. Alors, dans tout projet que je mène et que je pense tout entrepreneur mène, il y a l'aspect numéraire, mais c'est avant tout un aspect humain. Dans chaque projet, que ce soit le film, le livre ou même les boutiques, les pâtisseries que j'ouvre, c'est avant tout pour le partager avec mes employés, mais des gens que je ne connais pas. Et au travers de ce livre et ce film, c'était avant tout pour donner espoir, force et rigueur à une certaine jeunesse qui se pose des questions, qui, comme moi avant, était dans une situation de précarité avancée. Mmh. Pour ma part, ma maman était alcoolique, prostituée, droguée. Et il se passait beaucoup de choses au sein de sa vie. Donc on a vécu, ma sœur et moi, entre famille d'accueil, foyer et placement à l'aide sociale à l'enfance, justement. Et il est vrai que pour reprendre votre phrase...
Même si votre sœur a fait moins de familles d'accueil que vous, en fait. Ouais. Elle a choisi plus d'aller en foyer que vous.
Exactement. Ouais. C'était pas trop son schéma, le schéma familial, ouais. Parce qu'elle était plus âgée et donc elle avait vécu plus longtemps que moi avec ma maman. Donc elle préférait les foyers que...
Ouais, on a l'impression qu'elle se sentait en plus protégée dans un foyer,
au foyer
que dans un modèle familial, parce que justement le modèle familial n'avait pas été si rose que ça.
Exactement, que moi, j'étais beaucoup plus jeune quand je suis arrivé chez ma famille d'accueil, donc ça me convenait beaucoup plus.
Ouais, vous aviez moins de prix d'habitude.
Exactement, mais ce qui est paradoxal et ce qui est fou, c'est que du lundi au vendredi, donc j'étais dans une famille tout ce qu'il y a de plus aimante, avec une éducation à la française très de rigueur. Et le vendredi, samedi, dimanche, j'étais replongé dans les horreurs et puis beaucoup de choses négatives de chez ma maman.
Oui, parce que vous retourniez dans votre famille biologique le week-end.
Exactement.
Est-ce que vous en avez voulu à l'État, à l'aide sociale, de vous replonger là-dedans?
Non, même
ça pas. Ça vous faisait quand même plaisir de voir vos parents, parce que c'était vos parents.
Ça me faisait plaisir, ouais, de voir ma mère, parce que ça reste mon identité première. Et pour reprendre votre question de tout à l'heure, je sais pas si on s'en sort vraiment de ce genre de situation. Il faut apprendre à vivre avec, et puis c'est un peu comme un aveugle à qui on a enlevé la vue. Il va travailler d'autres sens,
il va essayer de s'adapter.
Exactement.
D'ailleurs, parce que vous dites, ça illustre très bien le nom de votre livre qu'on n'a pas cité depuis le début de l'émission. C'est créer pour survivre et vivre pour ne pas sombrer. Donc là, effectivement, ça vient totalement en corrélation avec ce que vous dites.
Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai choisi le nom, parce que justement, je m'y suis aperçu du haut de mes 31 ans que tous les projets que j'ai créés, qui m'ont amené succès et tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, était avant tout non pas pour rêver, mais pour arrêter de penser, pour me sortir de tout ce que j'avais de négatif étant plus jeune, mais surtout ne pas penser à un quotidien qui est parfois assez négatif.
Oui. Alors comment la pâtisserie est devenue peu à peu votre échappatoire et votre motivation pour exceller dans la vie? J'ai l'impression que c'est un choix que vous avez fait très tôt.
Ouais, en fait, les deux fils de ma tati et mon tonton, donc ma famille d'accueil première, étaient pâtissiers. J'ai grandi avec le goût populaire.
Alors, Laurent et Dany, hein.
Exactement, Laurent et Dany. J'ai grandi avec le goût populaire de la pâtisserie, parce qu'ils étaient pâtissiers en grande surface. Un Leclerc, l'autre à Carrefour et à Cora aussi.
Ah bah, on est dans la cité 3, on n'aura pas de problème avec le CSA.
Ouais, exactement.
C'est parfait.
Ouais. Et donc j'ai grandi avec ce goût populaire de pâtisserie. Et puis très jeune, quand vous grandissez sans vos parents, donc sans repère identitaire et sans forcément avoir dans les yeux de vos parents de la reconnaissance, et ben vous cherchez la reconnaissance un peu partout. Et moi, la pâtisserie, qui a été comme une évidence quand je travaillais bien trop mal à l'école pour continuer le cursus scolaire, m'a amené cette petite reconnaissance.
À ce moment-là, vous êtes dit, moi, je veux faire un CAP pâtisserie. C'était
exactement.
Pour vous, c'était la voie tracée. Ouais, de toute façon, on vous l'a pas imposé.
Si, j'avais pas trop le choix. À l'époque, j'avais beaucoup de problèmes de justice quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup de petites bêtises pour extérioriser ma haine et mon rejet de ma maman. Et puis, ben, vous passez devant le juge des enfants qui vous dit, soit c'est la prison pour mineurs, soit tu trouves une formation. Et la formation, c'était vite vu.
Peut-être que c'était déjà dans votre tête, la pâtisserie.
Exactement.
De façon,
hein. Peut-être que si ma tati et mon tonton avaient fait des fleurs, ou avaient été maçon, je serais fleuriste ou maçon. Il n'y a pas de don à la base. Mon seul don, ça a été d'avoir l'envie, d'avoir envie, et puis de me plonger là-dedans au plus profond.
Le fait que vous faites tout pour être le meilleur quand vous êtes dans votre famille d'accueil. Mmh. On a presque l'impression qu'en fait, c'est parce que vous culpabilisiez, vous vous disiez, quand j'étais dans ma famille biologique, ils s'occupaient pas de moi parce que j'étais quelqu'un de pas bien. Et du coup, on a l'impression que dans votre famille d'accueil, vous faites tout pour être bien parce que vous voulez pas vivre un nouvel abandon.
Ouais, bien sûr, bah c'est un peu ça. Quand on est jeune et qu'on comprend pas pourquoi votre maman vous délaisse, que votre papa vous connaît pas, et que même avec votre sœur c'est compliqué parce que vous vivez pas dans le même cadre et vous évoluez pas de la même manière, vous cherchez à tout prix à exister, et quand vous avez pas de métier, pas d'objectif, bah vous existez au travers des petites bêtises comme ce que je vous ai expliqué. Et puis une fois que on vous rentre du plomb dans la tête et que vous trouvez une formation, et ben forcément ça peut être à double tranchant, bien entendu, hein. C'est pas donné à tout le monde de s'en sortir par la voie professionnelle, mais en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé, et puis surtout dans le cadre dans lequel j'étais. Moi, j'ai très rarement vu ma mère à jeun. Elle était toujours sous l'emprise de l'alcool ou bien la drogue. Et puis, il y avait toujours un tas de monsieur à droite à gauche qu'on appelait des tontons à l'époque. Et donc, c'est compliqué de trouver sa place en tant qu'enfant. Normalement innocent dans tout ça.
Surtout que votre mère, elle alternait le côté gentil et le côté méchant, en fait.
Exactement.
Il y avait toujours ce chaud et froid. Ouais.
Est-ce que c'était fonction de son état ou est-ce que c'était pour vous manipuler un petit peu
Non, avec le recul, je pense qu'il y avait une petite part de manipulation, mais pas voulu, parce que ben pour elle aussi, ça devait être vraiment compliqué. Je grandissais à l'aide sociale à l'enfance et je portais énormément d'amour pour ma famille d'accueil. J'étais obligé, contraint de la voir, et en même temps ça me faisait plaisir parce que ça reste ma maman, mais elle, c'était pas toujours le cas parce qu'on était un fardeau, un poids pour elle.
Elle le disait, bien sûr.
Nous, elle nous disait qu'on était des erreurs, qu'on était nés d'une passe. C'est quand même un truc de fou quand on est jeune d'entendre ça. Et puis il y avait toute ma famille autour, donc les tantes et ainsi de suite, qui étaient tout aussi néfastes qu'elle. Donc c'était pas toujours évident à encaisser. Et puis au-delà de ça, elle était très très gentille quand elle avait ce qu'elle voulait. Et puis quand elle était en redescente de la drogue et puis de l'alcool, et ben bah forcément on se rend compte de ce qu'on a fait et on devient méchant.
Ouais.
Ouais, voilà.
Ça, c'est le principe des montagnes russes.
Exactement.
Mais vous savez si le nom de famille que vous portez, alors il vient de votre mère ou de votre père ?
C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Je sais pas, parce que même quand... c'est une très bonne
question. Ça pourrait être Kabyle, enfin je...
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, mais que je suis originaire du Maroc, de Ouarzazate.
D'accord,
plus précisément,
donc berbère.
J'ai toujours de la famille là-bas, que je ne connais pas, mais elle est toujours là-bas. Et en fait, même ma mère, son prénom, en fin de compte, elle donnait tellement de prénoms à tous les mecs qu'elle croisait. Oui, que je sais même pas exactement.
Ça vous avait jamais effleuré l'esprit d'aller faire des tests ADN, vous savez, qu'on commande en ligne là comme ça.
Ouais, si, bah il y a plein de gens qui me disent ça.
Pour trouver une région un peu d'origine.
Ouais, pas trop. Non. En fait, j'ai 31 ans, donc je suis encore jeune. Peut-être que je le ferai dans les années à venir, mais j'ai passé ma vie à essayer de m'en sortir. Et quand vous connaissez pas le McDo. Vous avez pas envie d'aller au McDo?
Non, bien sûr.
Et ben moi, je connais pas mes racines et je connais pas ma famille. J'ai pas forcément envie de les chercher à tout prix. Je fais avec ce qu'on m'a dit.
Ah, je connais ça aussi.
Et voilà.
Voilà. En tous les cas, oui. Mais j'en profite pour dire, si vous ne connaissez pas le McDo, n'y allez pas.
Ouais.
Merci. voilà, et autres, hein. Je pourrais citer d'autres marques. Est-ce que vous voyez toujours votre maman à l'heure actuelle?
Non, elle est décédée il y a 7 ans.
À cause de la drogue?
Ouais, drogue, alcool,
usé, et puis usé, quoi.
Ouais, voilà. Vous expliquez dans votre livre comment vous apprenez qu'elle est morte, hein, puisque.
Ouais, exactement.
Avec votre sœur.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ma sœur qui m'appelle un jour et puis qui me dit, écoute, maman, elle est décédée. D'accord, ok, j'avais reçu une lettre.
Et comment vous avez réagi à ce moment-là?
J'ai pas forcément eu de réaction. J'étais à mon laboratoire de pâtisserie. On m'a dit qu'elle était décédée, mais dans ma tête, elle était déjà morte depuis très longtemps. Mmh. Je pense que c'est
une sorte de mort cérébrale un peu. Quoi.
Ouais, voilà, ouais. Il y a un moment où, quand tout devient très dur et quand tout devient néfaste autour de vous, où vous êtes obligé de prendre votre cœur, le mettre dans la poche pour vous en sortir vous-même individuellement. Et moi, c'est très dur, hein, les mots que je prononce ici, mais si j'avais pas considéré ma mère comme ne plus existante au moins 10 ans avant qu'elle parte, peut-être que j'aurais pas eu ce cursus professionnel, peut-être que j'aurais cherché indéfiniment l'amour qu'elle a jamais été capable de me donner. Et ça a été aussi une des plus grandes leçons. Quand il y a une situation qui vous convient pas ou des gens qui vous conviennent pas dans une vie où vous évoluez, il faut savoir couper. Et même si c'est avec des gens les plus proches de vous, parfois avec le même sang. C'est un exercice qui est effroyable et qui est au plus difficile, mais qui en tout cas, pour moi, m'a sauvé la vie.
Alors, comme vous le dites, vous en parlez avec, je parlerai pas de froideur, mais avec peu d'émotion, avec beaucoup de recul. Pourtant, on a l'impression que ce deuxième livre, ça vous a aidé à vous déprotéger et à partager la vérité sur votre parcours, parce que dans le premier livre, vous abordez moins vos faiblesses et vos mauvais souvenirs.
Exactement. La grande différence entre le premier et le deuxième livre, c'est environ 6 ans et demi, 7 ans, et ma carrière professionnelle. Il y a des choses que je dis dans le deuxième livre que je pouvais absolument pas aborder dans le premier. Parce que j'avais
le sujet du livre.
Et exactement. Et dans le deuxième, en fait, j'explique vraiment tout ça parce que c'est intervenu pour moi, ce livre, un peu comme une thérapie, on va dire. Et puis l'envie de dire la vérité parce que quand vous sortez un film, tout est un peu édulcoré pour le bien du cinéma et puis les choses qu'on a besoin de faire transmettre pour faire attacher le public visuellement. Et moi, je voulais pas que les gens qui me connaissent ou qui m'ont connu et même les gens qui voient ce film se trompent.
Oui, quand on parle du livre, on a l'impression que ce film, c'est un film triste.
Exactement.
Un drame et non pas une comédie dramatique ou etc.
Exactement.
Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle vraiment un feel-good movie. Quoi.
Voilà, il est marrant, il est cool, ouais. On voit des choses dures mais qui sont vite remplacées.
Voilà, quand on sort du film, on a vraiment un sentiment de bien-être, etc.
Exactement.
Alors que, c'est pour ça que je disais, il faut revoir le film après avoir lu le livre. Là, on a un aspect assez différent. Si on veut vraiment rentrer dans votre tête un petit peu,
exactement,
et voir le film à travers votre prisme à vous, c'est bien de lire le livre et d'y retourner.
Exactement. Dans ce livre, je raconte à la fois toutes les difficultés, mais les beautés aussi de la vie que les difficultés apportent. Mais j'explique aussi toute la mélancolie que la réussite peut engendrer, parce que moi, j'avais la mentale d'un footballeur ou un rappeur quand j'étais au foyer. Souvent, avec le manque d'éducation et le manque de repères, on se dit que la réussite, elle va être numéraire, elle va être via l'obtention d'argent, de matériel et de projets professionnels. Et c'est au travers de ce livre que je raconte un peu tout ça. Une fois qu'on a tout obtenu,
l'argent s'achète pas l'amour.
Ouais, exactement.
Ni les amis, ni la santé.
Sauf que vous, c'est vrai que vous comparez aux rappeurs ou aux footballeurs qui viennent des quartiers,
du même endroit et on a tous.
Et du jour au lendemain,
au début, la même envie.
Ouais. Voilà. Sauf que, on va en parler juste après la publicité. Vous arrivez au sommet alors que vous veniez des quartiers. On parlait aux footballeurs, aux rappeurs, etc. Il y a plein d'exemples dans ce style-là. Ouais. Mais il y a quand même le Covid qui vous a rappelé.
Exactement.
Qui vous a rappelé la réalité des choses. On en parle juste après la pub, Yazid.
Avec plaisir.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Ah, c'est pas tous les jours qu'on a un champion du monde, Manu.
Un champion du monde de pâtisserie glacée. Hein. C'est en 2014 à Rimini, je crois, c'est ça?
Mais exactement.
Hein, donc 2014, vous aviez quel âge? C'était assez jeune.
J'avais 22 ans.
22 ans.
Jeune champion du monde.
22 ans, alors que, comme on l'a dit,
Alors, c'est par équipe, hein?
Oui.
Oui, bien sûr. On est trois. On est trois dans l'équipe.
Voilà, et dans la partie précédente de l'émission, pourtant, on a parlé un petit peu, on a dévoilé un petit peu votre passé, toutes les difficultés que vous avez connues, et donc, aussi jeune, devenir champion du monde de pâtisserie, c'est quelque chose. Mmh. Voilà, c'est pas rien. Alors, juste avant la pause, Yazid, vous disiez effectivement que bon, vous pensiez être arrivé, comme on dit, hein, mmh. Bon, parti de presque rien, hein, comme vous donniez l'exemple vous-même, hein, certains rappeurs, certains boxeurs, certains artistes ou autres, hein, qui partent de rien et qui, et je parle même pas des influenceurs, hein, qui vivent un peu de rien, ouais, du tout, ouais, mais vraiment des gens qui ont un vrai métier, un vrai talent, alors qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Vous dites, ça y est, je suis arrivé, c'est bien, il y a le succès, il y a l'argent et tout, mmh. Et là, bam, le Covid.
Ouais, en fait, quand je dis ça y est, je suis arrivé, dans le livre, c'était un moyen de faire beaucoup plus de projets, forcément, tout était fructifiant, et j'ai investi mon argent, presque tout mon argent, dans deux boutiques sur Paris. J'en avais une à Montmartre et l'autre à rue des Jarcifs,
ouais, sur un concept juste à côté de chez moi, et je connaissais pour, ouais, ça d'ailleurs.
Et
ouais,
qui s'appelle E-Time, avec lequel je faisais des cookies, des brownies. Mon leitmotiv à Paris, c'était de faire de la jolie petite pâtisserie d'enfance, cookies, ouais, brownies.
Petite restauration un peu, exactement, des burgers.
Voilà, c'est ça. Des petits burgers healthy, vegan et des pokéballs. De manière à ce que ça puisse passer pour toutes les bourses. Donc je me suis dit, je vais développer l'activité du luxe à l'étranger, et à Paris, je vais faire un truc pour monsieur et madame tout le monde.
À l'étranger, vous êtes à Dubaï, entre autres.
Voilà, exactement. En rappel à là d'où je viens. Et puis, ben, un jour, 5 mois après, je me fais casser la vitrine par 3-4 fois d'affilée par les gilets jaunes. Et puis, donc, c'est beaucoup d'argent de remis d'un coup. Et puis derrière... Emmanuel Macron qui nous annonce à tous que il faut fermer les commerces, qu'on ne sait pas quand on va réouvrir, et moi j'avais 9 mois d'activité, donc pas de prêt PGE sur le moment, et puis j'ai tout perdu, voilà. Il y avait tout à payer, l'URSSAF, les impôts, les machins, les trucs et tout, les employés, j'avais 11 employés, donc c'est vite 25 000 euros de frais de perso par mois. J'ai tout perdu, voilà. J'ai vendu mon matériel vite fait en liquide, de manière à pouvoir subsister. J'étais à moins, je me suis retrouvé de plus 486 000 euros sur mon compte à moins 30 000 en quelques mois.
Oui, c'est la abyssal.
Mais vous avez commis l'erreur du débutant, finalement, investir votre propre argent dans vos affaires.
Ouais, voilà. Ouais, c'est un petit peu ça. Ben là, je le fais plus, je vous rassure. Ouais. J'ai tout un tas d'investisseurs qui sont très heureux de faire du business avec moi. Mais je sais pas si on peut appeler ça l'erreur du débutant, parce que c'est, il y a un moment où on a envie parfois de faire des choses nous-mêmes avec ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes, etc. Et puis nul ne peut prévoir un Covid. C'est complètement dingue. En fait, moi, ça, je me suis fait avoir de tous les côtés. C'est que j'ai des licences de marque à l'étranger. J'étais au Qatar, à Mykonos, à Kstad, enfin à droite, à gauche, en Arabie Saoudite, au Koweït, et j'avais toujours le même contrat, copier-coller, donc licence de marque, avec une fiche d'entrée et des royalties. Et les royalties, c'est super pour vivre.
C'est par rapport au chiffre d'affaires. Et voilà, quand il y a Covid, il y a plus de chiffre d'affaires.
Exactement, plus de chiffre d'affaires. Et surtout, il y a une petite phrase dans chaque contrat, avec une toute petite, qui dit en cas de catastrophe naturelle et pandémie mondiale, le contrat devient caduque. Quand on signe ça il y a 7 ou 8 ans, on se dit pas catastrophe naturelle ou pandémie mondiale. Il n'y a pas de tsunami à Paris, quoi.
Ouais.
Et bah si, c'est arrivé. C'est arrivé.
Et là, par
jour en demain, plus rien.
Vu votre parcours, quand ça arrive, ça, est-ce que vous vous dites pas, ouais, en fait, le sort s'acharne, j'ai pas le droit, ouais, j'ai pas le droit de réussir.
Ouais, il y a une part de ça, et puis une part de très très grande dépression, parce qu'au-delà de tout l'aspect de manque financier, des huissiers qui vous appellent, des banquiers, des propriétaires, machin, toute la machine qui s'engraine, c'est aussi l'extrême solitude, parce que ça me rappelle à quel point je suis seul. Moi, j'ai fait des projets toute ma vie pour éviter de penser et pallier peut-être à un manque familial et ainsi de suite et tout. Mais au moment du Covid, bon, je suis chez moi, à Saint-Germain-des-Prés, je regarde dans la glace et je me dis, putain, mais j'en suis où? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, en fait?
Qu'est-ce, voilà, que j'ai fait au bon Dieu, ouais, comme le dit l'expression?
Pas de...
enfin, la femme de votre vie vous a quitté, en fait.
Et ouais, ouais,
à ce moment-là, vous commencez à avoir des remords, quand même.
En fait, elle est partie. La vérité, c'est qu'elle est partie un an et demi avant le Covid.
Ouais.
et que moi je m'en foutais un peu, j'étais dans mon truc et tout, dans ma vie et tout, et tout seul à la maison, j'ai commencé à réfléchir.
Face au Covid, seul à la maison, c'était pas la même.
Exactement, à me poser les vraies questions existentielles de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que c'est l'obtention et faire des projets, devenir riche et exister un peu partout dans le monde? J'ai fait 39 pays les 5 dernières années. Ou alors le bien familial d'une construction saine et pérenne avec des gens tout simplement simples qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et cette femme-là, en fait, elle m'aimait pour ce que j'étais. Et ce qui se passe, c'est que au moment du Covid, avec tout cet acharnement social, je me suis retrouvé à ne même pas pouvoir appeler ni mère, ni père, ni rien, ni personne. Donc j'ai vécu tout ça
seul, en vrai.
Exactement.
Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, pour tous ceux que la réussite intéresse, c'est que vous êtes très tôt devenu une bête de concours. Et vous vous êtes construit un mental de bête de concours. C'est-à-dire que très tôt dans votre vie, vous vous dites, je serai champion du monde. De... Mmh. C'est pas tous les gamins quand même qui se disent. Qu'est-ce qui fait que vous aviez ce mental, on va dire, de conquérant, de battant?
C'est simple. En fait, moi, j'étais au foyer. Dès le début de votre enfance, le foyer, ça vous fait dire que vous êtes différent. D'une mauvaise manière, mais ça vous fait dire que vous êtes différent. Quand on vous emmène au collège ou en école primaire avec les gros camions, vous sortez à 8, 10 du gros camion et que derrière le gros camion, c'est marqué foyer en rouge avec l'étiquette jaune, que les autres, c'est leurs parents qui les amènent. Bon, déjà, tout de suite, ça affiche et vous vous dites que vous êtes différent, vous subissez des moqueries ou alors des rejets. Et en fait,
c'est-à-dire que vous êtes passé de victime à tyran, vous expliquez.
Ouais, exactement.
Au début, vous êtes celui dont on se moque, et après vous devenez celui qui se moque.
Exactement. Ouais. C'est simple, de toute façon, c'est l'histoire de la vie.
Votre personnel. Vous avez toujours eu des relations avec votre personnel assez. Presque familial,
c'est-à-dire
le personnel de vos entreprises.
Ah oui, parce que ça
arrive très familial, beaucoup,
très après.
On crée une famille presque.
Une deuxième famille. Quand j'étais plus jeune, en fait, c'est simple. Au foyer, il y a les loups et les moutons. C'est bête, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Et au début, on se fait manger, et puis après, c'est nous qui se mettons du côté des forts. Et ça a rien de glorieux, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Et puis au-delà de ça. J'ai développé ce mental par rapport à tout ça. En fait, quand j'étais au foyer, j'avais droit à une demi-heure de salle internet par semaine.
Ah oui.
Et pendant ma demi-heure de salle internet, je tapais meilleur pâtissier du monde sur Google. Je voyais tout un tas de pâtissiers, champions du monde et meilleurs ouvriers de France. Et j'imprimais leur tête en noir et blanc, parce qu'on n'avait pas d'encre colorée, c'était trop cher, vous voyez. Et je les accrochais dans ma chambre.
Ouais, les copains avaient Britney Spears
tas de n'importe quoi.
Et vous, pâtissiers.
Des pâtissiers. Et je me disais que j'allais devenir comme eux un jour.
Alors justement, vous parliez des grands pâtissiers que vous affichiez sur votre mur. Mm-hmm. C'est très bien parce que ça colle avec ma question suivante. C'est que Philippe Ponticini, Pierre Hermé, Christophe Michalak, Christophe Adam, Jean-Paul Évin, c'est des noms qui vous parlent évidemment.
Bien sûr.
Tous ces pâtissiers-là travaillent sous leur nom. C'est d'ailleurs leur nom, c'est leur enseigne.
Ouais.
Et vous, Yazid, icône, e-time. Je me pose la question, est-ce que c'est la crainte d'un certain racisme, entre guillemets, qui fait que vous n'avez pas mis votre nom comme enseigne? Mm-hmm. Ou est-ce que c'est parce que, finalement, ce nom que vous portez, c'est aussi un boulet que vous portez vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment vous, quoi.
Alors, ça aurait pu être l'un ou l'autre, mais même pas du tout, en fait.
Ou d'humilité, tout simplement.
Honnêtement, même pas. Pour répondre à la première, bon, le racisme, arrive à un certain niveau de compétence, c'est comme les footballeurs, en vrai. Bon,
ouais.
Au bout d'un moment,
il n'y en a plus.
Il n'y en a plus trop. Et il y en a encore, mais il est plus déguisé, quoi. Mmh. Et pour l'autre question, non, même pas par rapport à quelque chose d'identitaire, c'est juste que moi, je fais du business avant tout, j'ouvre des boutiques, et dans toutes sortes de boutiques que j'ouvre, je suis confronté à des investisseurs. Je préfère céder, concéder, sous forme de licence de marque et de franchise, une marque que j'ai créée toute pièce avec mon identité humaine et visuelle, mais l'investissement, donc les sous et le pourcentage de cette marque appartient un peu à des investisseurs parce qu'ils investissent, mais c'est la marque qui appartient, pas Yazid Hichem Rehane.
Ouais.
Et ça, c'est super important pour moi.
Ne pas faire la même erreur que Chantal Thomas en son temps.
C'est ça.
On a parlé des grands noms de la pâtisserie que vous avez croisé, mais vous avez croisé la maman d'un pâtissier qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est connu, qui s'appelle Vincent Dallet.
Ouais.
Et cette dame, elle va vous donner un conseil.
La maman?
Ouais. Madame Dallet qui vous conseille, qui vous dit, qui vous dit que ton gâteau, ça peut être le meilleur du monde, mais s'il est pas beau.
Ouais, c'est vrai.
C'est quand même la base, ça.
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, je me rappelle. Bon, un conseil, c'était une remontrance, en vrai. J'étais au labo depuis 5 heures du mat, apprenti, je faisais des éclairs au chocolat. Et j'ai remonté la grille d'éclairs, donc dans la boutique, pour que la dame puisse les mettre dans la vitrine. Et quand elle a vu les gâteaux, ils étaient super moches.
Quand elle a vu la tranche des éclairs, ouais. Elle a dit.
Et là, elle m'a dit, mon pote, il va falloir faire un truc, là, ça va pas du tout. Mais c'est normal, quand on est apprenti, on fait plein d'erreurs. Et donc, elle me l'a dit sur un ton assez froid, puisque c'est les cuisines, la pâtisserie, c'est comme ça. Mais ça m'a servi tout au long de ma carrière.
Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un pâtissier et un très bon pâtissier?
C'est l'âme, en vrai de vrai. C'est même pas les recettes, parce que maintenant, aujourd'hui, la pâtisserie s'est tellement démocratisée par rapport aux émissions que vous trouvez toutes sortes de recettes de tous les grands chefs pâtissiers dans tous les livres. Et l'âme du pâtissier, c'est tout simplement son cœur, et c'est ce qui permet d'assaisonner ses gâteaux différemment.
Et c'est ce qu'il y a dans vos gâteaux, c'est votre âme.
Exactement.
Absolument. Allez, on rappelle votre livre, Créer pour survivre et vivre pour ne pas sombrer. Où on peut rappeler d'ailleurs, puisqu'il est toujours disponible, votre premier livre, hein, Un rêve d'enfant étoilé, où vous dites comment la pâtisserie vous a sauvé la vie et vous a éduqué. Et puis le film À la belle étoile, produit par Jamel Debbouze et vous-même.
Merci.
Et moi, je le dis vraiment aux auditeurs, lisez le livre.
Disponible sur Amazon.
Ouais, lisez le livre et retournez voir le film. Vous allez voir, c'est une lecture totalement différente. Merci beaucoup, Hichem.
Merci beaucoup, merci. Merci, merci.
À très vite.
Merci à vous, merci.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.